Actu SF, les podcasts.
Bonjour, désolé encore du retard. Alors je suis là pour vous parler d'afrofuturisme, et donc d'abord je vais me présenter. Non, je suis très heureux d'être là, c'est la première fois que je fais donc une convention de science-fiction. Et donc, c'est la première fois aussi que je fais une conférence. Donc je m'appelle Yann-Cédric Agbodan-Aolio, et je suis de formation scientifique, donc j'ai fait des études de chirurgie dentaire, et j'ai fait de la recherche en biologie santé, et j'ai travaillé quelques années dans l'industrie pharmaceutique, et donc ça fait depuis 2 ans que j'écris des romans et des nouvelles de science-fiction. Alors, je suis d'origine ivoirienne, donc la Côte d'Ivoire, c'est l'Afrique, donc c'est pour ça que je parle de l'afrofuturisme, même si je suis africain, c'est pas du tout une légitimité pour en parler, parce que n'importe qui écrit de l'afrofuturisme peut être européen, asiatique, et se revendiquer de ce courant. Alors, qu'est-ce que l'afrofuturisme? Alors, il y a quelques mois, je ne savais même pas ce que c'était, même si apparemment j'écris de l'afrofuturisme. Et donc au départ, je me suis dit naturellement, l'afrofuturisme, c'est l'Afrique dans le futur. Et je me suis rappelé un peu mes cours de quatrième, où on étudiait un peu les différents courants littéraires. Et donc le futurisme, en fait, c'est un courant qui est né en Italie dans les années 20-30, qui glorifiait un peu tout ce qui est machine, tout ce qui est avancement. Tout ce qui est avancement de, comment dire, technologique. Et qui prenait plutôt le changement de la modernité et faisait l'éloge des machines, de la vitesse et du mouvement. Et donc je me suis naturellement dit, l'afrofuturisme, c'est la même chose, mais transposé à l'Afrique. Et en fait, un petit peu, mais surtout pas du tout. Et donc, du coup, je suis allé voir sur Wikipédia pour voir un petit peu ce que ça disait. Et donc, sur Wikipédia, ils disent que c'est un courant littéraire et artistique qui explore la culture africaine et afro-américaine avec des éléments de science-fiction et de réalisme magique. Donc, tout le monde sait ce que c'est que le réalisme magique. Et donc, on peut y trouver des éléments de science-fiction, de fiction historique, de fantastique. D'afrocentrisme, donc ça va être très centré, sur l'Afrique et ses problèmes, de réalisme magique, ainsi que des cosmogonies et cosmologies africaines et afro-caribéennes. Et donc les œuvres ont possédé souvent un regard et un volet critique à l'égard des dilemmes actuels des afro-descendants et de leur histoire. Alors du coup, moi ce que j'ai compris de cette définition, c'est que l'afrofuturisme n'était pas uniquement de la science-fiction, donc il y avait également du fantastique, du réalisme magique, qu'elle ne concernait pas uniquement les Africains, mais tous les Afro-descendants, donc sur tous les continents. Donc déjà, la définition, là, c'était pas mal, mais je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je ne m'en suis pas contenté. Donc j'ai essayé de creuser un peu plus, et me manquait quelque chose. Je voulais savoir qui étaient les premiers artistes qui se réclamaient donc, de ce courant, ou du moins qui ont été rattachés à ce courant a posteriori, et d'où ils venaient. Je voulais savoir pourquoi et comment était né l'afrofuturisme et pourquoi. Et donc on va voir tout ça, et à la fin on jettera un coup d'œil sur l'afrofuturisme dans les arts et l'afrofuturisme en Afrique, bien sûr. Alors surtout n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions, et de toute façon il y a une petite partie, enfin 15 minutes à la fin pour une séance de questions-réponses. Alors, déjà, est-ce que vous avez une petite idée de ce qu'est l'afrofuturisme? Oui?
Enfin, là, de la description que vous donnez, pour moi, l'exemple, pour un néophyte, finalement, le plus connu de l'afrofuturisme, ce serait Black Panther.
Exactement.
C'est le film que le personnage de comics avant le film.
Ouais. Tout à fait. Mais du coup, effectivement, comme c'était le plus flagrant, j'en parle pas du tout, je vais parler de choses qu'on connaît beaucoup moins. Comme ça, je me suis dit que ça allait être un peu plus intéressant.
Comme j'ai entendu vous parler, je me suis dit que c'était un peu plus intéressant. Comme j'ai entendu vous parler, je me suis dit que c'était un peu plus intéressant.
Voilà, c'est exactement ça. Ou même par exemple, moi je pensais aussi à.
Qui a peur de la mort, mais vit au corps à corps.
Oui, tout à fait. Ça, c'est l'une des romancières aussi les plus importantes de la France futuriste. Et je pensais aussi à la série. Là, j'ai oublié le nom m'échappe. Qui a duré 10 ans et qui part. La Porte des Étoiles, voilà. Où on est. On explore différentes civilisations, dont la civilisation égyptienne. Et donc il fait partie de l'Afrique, mais on a un peu un afrocentrisme qui s'approprie un peu cette culture égyptienne antique. Et donc en fait l'afrofuturisme existe depuis les années 50-60, mais il a été conceptualisé par cet homme qui s'appelle Marc Derry, qui était essayiste et journaliste, c'est un Américain, donc essayiste aux États-Unis. Donc je fais exprès d'insister sur Américain, États-Unis, vous allez voir après pourquoi. Et donc il est essayiste et journaliste au Washington Post et Rolling Stone. Et c'est lui qui va conceptualiser du coup ce courant en 1994. Et donc il disait que donc l'afrofuturisme c'est une fiction spéculative qui traite des thématiques afro-américaines dans le contexte de la technoculture du XXe siècle. Une sémantique afro-américaine qui s'empare d'une imagerie technologique et d'un futur prophétiquement, donc c'est très important ce mot prophétiquement augmenté. Prophétiquement augmenté parce qu'on va voir après que même si l'afrofuturisme est très empreint de science-fiction, il y a toujours une partie magique, de mysticisme, de mythique, de mysticisme. Il va préciser que les voix africaines, américaines ont d'autres histoires à raconter au sujet de la culture, des technologies et des choses à venir. S'il existe un afrofuturisme, il est à chercher dans les endroits les plus improbables, au fond des constellations les plus lointaines. Donc en fait, l'afrocentrisme, en fait, par exemple aller aux États-Unis, la plupart des courants qui vont se revendiquer un peu de la négritude, entre guillemets, ils ont envie de retourner vers l'Afrique. Alors que l'afrocentrisme, on était de l'Afrique, on est africain, mais ce qu'on veut, c'est partir vers les étoiles. Alors cette définition va peu à peu s'enrichir et s'élargir pour s'affiner. Et donc avec cette dame qui s'appelle Ingrid Lafleur, qui est la créatrice d'Afrotopia. Donc Afrotopia, c'est un projet qu'elle a lancé à Détroit quand la ville est complètement tombée en décrépitude avec la crise. Donc, il y avait des conférences et des expositions sur l'afrofuturisme, parce que pour elle, ce courant pouvait refaire renaître sa ville. Et donc, elle dit que. Elle dit que les afrofuturistes sont influencés donc, par l'histoire, les mythologies et cosmologies africaines, la technologie, la biologie, la génétique et d'autres disciplines alternatives. Et je me retrouve totalement dans cette définition, parce que dans mes livres, l'histoire, je m'en inspire, même si elle n'est pas forcément de l'histoire africaine. Je vais parler de la Seconde Guerre mondiale, par exemple, du paléolithique, il y a 73 500 ans, ou alors les mythologies, cosmologies africaines. Je vais parler des Oryxas, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. En fait, c'est des divinités ouest-africaines qui sont à l'origine du Nigeria et qui ont été exportées en Afrique, au Brésil, à Cuba. Et technologie, bien sûr, voyage dans les dimensions, dans l'espace. Et la biologie, puisque je suis biologiste, donc je vais beaucoup piocher aussi dans cette discipline. Et donc, en ce sens, l'afrofuturisme, c'est un mouvement pluridisciplinaire qui va se retrouver, on va le voir plus tard, pas uniquement dans les livres et les films, mais aussi la musique, les arts plastiques, le graphisme, le stylisme, la photographie. Donc, globalement, l'afrofuturisme, ça va être de penser le futur dans un contexte noir. Et justement, voici l'écrivaine romancière de SF, Nnedi Okorafor. Et donc, elle dit que l'afrofuturisme, c'est voir l'Afrique dans l'avenir. Alors là, on a vu globalement un petit peu la définition. Est-ce que vous avez quelques questions déjà? Est-ce que vous avez tout compris? Est-ce qu'il y a des... que j'ai été incomplet, oui.
Alors, pour la futurisme de ce film, ça fait un moment que je réfléchis à la question, pas uniquement pour le futurisme, mais pour la littérature de la SF africaine. Quand on parle d'Afrique, on parle d'Afrique en tant qu'entité idéologique ou en tant qu'entité géographique. Parce que quand on parle d'afrofuturisme,
oui.
Je pense à des auteurs du Nord qui ont réfléchi aussi à cette question. Et je ne sais pas, mais peut-être aussi on devrait creuser cette question-là. Lorsqu'on parle de la science-fiction africaine,
oui.
On parle, on note pour une entité idéologique ou pour une entité géographique.
On va le voir après, au tout début, vraiment, c'est très idéologique. C'est-à-dire, au départ, ça va être les Afro-Américains qui ne sont jamais en Afrique, donc ils idéalisent un peu leur passé, leurs origines. Et après, on va se déplacer vers ce qui est géographique quand l'afro-futurisme va sortir des frontières américaines pour arriver enfin en Afrique et des afro-descendants qui sont en Europe, en Amérique du Sud et ainsi de suite.
Donc ça va être une entité géographique.
Voilà. Oui.
Du coup, enfin deux choses. Une, c'est anecdotique, mais vous parlez de les Africains, les Afro-Américains, nostalgiques, etc. Finalement, il y a une part qui est exactement le rastafarisme.
Pardon ?
Qui est exactement le rastafarisme, la philosophie première du rastafarisme.
Oui. On va dire que ça a contribué. En fait, la naissance de l'afrofuturisme va naître avec toutes ces choses qui vont arriver de l'Afrique vers les États-Unis. Enfin, les États-Unis qui veulent en savoir plus sur leurs origines et donc essayer de construire un peu leur mythe et déconstruire un peu ce qu'on leur a dit.
Et est-ce que aussi l'afrofuturisme, c'est pas aussi l'image cliché qu'elle a pour le moment, c'est-à-dire l'endroit où les armées américaines et européennes arrêtent les guerres civiles. Et avec les familles, etc., c'est de montrer un autre futur possible et que l'Afrique, c'est pas que ça.
Complètement. Bah, en gros, moi, la première fois quand j'ai entendu parler d'afro-futurisme, je me suis dit que c'était un peu antinomique. Parce que c'est afro, Afrique, futurisme, parce que l'Afrique, c'est quand même la terre. C'est les ancêtres, ancestrales, tout ça. Et donc, on a toujours des clichés. Et finalement, effectivement, comme tu le dis, c'est tous les auteurs, on va voir, que ce soit dans la musique, tout ça, ils déconstruisent totalement les clichés pour qu'on ait une nouvelle vision de l'Afrique qui est présente, qui est dans le présent, bien sûr, dans le passé aussi, mais bien entendu dans le futur. Alors, oui. Donc voilà pour la vision. Et où maintenant on va essayer de savoir où et quand est né l'afrofuturisme, même si j'en ai parlé un petit peu avant. Et donc j'ai dit tout à l'heure qu'il existait dans les années 50-60 aux États-Unis, sans que les gens lui mettent vraiment une étiquette. Ça existait, mais personne se disait oui, je suis afrofuturiste. Et donc on va parler donc. Donc on parle d'afrofuturisme, excusez-moi, mais le mouvement, au tout début, il n'est vraiment pas africain à la base, et il est vraiment 100% américain. Il va être mené de bout en bout à 100% par des afro-américains. Donc comment et pourquoi est né ce mouvement? Donc là, je vais vous parler d'une femme qui s'appelle Mawena Yewusi. En fait, quand j'ai fait mes petites recherches sur Internet, il y avait plein de théories, plein d'explications, et c'est celle-ci qui m'a paru, on va dire, la plus plausible et la plus intéressante. Et donc, c'est une chercheuse artiste béninoise qui a créé un site Internet qui s'appelle Black to the Future. Et donc, vous pouvez y aller, c'est très très riche comme site Internet. Et en plus de ça, elle a fait une thèse sur l'afrofuturisme. Donc vraiment, elle s'y connaît. Par contre, elle explique des choses assez complexes. Donc moi, j'ai essayé de tirer l'essentiel et ce qu'on pouvait comprendre le mieux. Alors, les origines profondes de l'afrofuturisme, donc ça vient des États-Unis. Alors pourquoi les États-Unis? tout le monde sait que les États-Unis, c'est un conglomérat de peuples qui ont immigré dans ce pays. Et donc, en fait, il va y avoir deux groupes. Il va y avoir les gens libres et les esclaves. Et bien sûr, les gens libres, ben, bon, ils savent exactement d'où ils viennent, ils connaissent leur origine, ils connaissent leur identité, ils ont un lien avec le pays, par exemple, les Américains irlandais, ils vont faire chaque année une fête à la Saint-Patrick. Et donc, ça, c'est, pour eux, c'est un objet de fierté et même parfois d'hégémonie sur le reste de la population. Alors que les Noirs américains, du coup, ils sont esclaves, ils ne savent pas vraiment d'où ils viennent, enfin, ils savent qu'ils viennent d'Afrique, mais ils ne peuvent pas avoir un point géographique, oui, je viens de Côte d'Ivoire, ou du Togo, ou du Mali. Et donc, du coup, pour eux, ils ne peuvent pas se tourner en disant « je suis africain » et ils vont inventer ce qu'on appelle la négritude. Donc, ça va être différent de la négritude à la française. La négritude à la française, c'était par exemple Léopold Senghor ou Aimé Césaire qui avaient créé ce mouvement qui était littéraire et politique entre les deux guerres en opposition à l'anticolonialisme. Là, ça va être un peu différent, ça va être très identitaire aux États-Unis et pour vraiment se démarquer des autres populations, en particulier la population blanche. Et donc, ça, c'est le début. Et donc, au fur et à mesure, il va y avoir un détachement de cette négritude parce qu'au bout d'un moment, ils vont commencer à vouloir connaître leurs origines parce qu'ils veulent être fiers de quelque chose. Et c'est là, comme on a parlé, ils vont essayer de voir un peu ce qui s'était passé en Afrique. Et donc là, ils vont... Pour se glorifier un peu, pour s'apporter une certaine gloire par rapport aux autres peuples. Et donc c'est là qu'ils vont regarder dans d'autres pays comme en Éthiopie et mettre en avant ce roi d'Éthiopie, mettre en exergue une prophétie qui a été dite sur le Rastafari par exemple. Et donc c'est ce qu'on va appeler l'africanité. Et donc, petit à petit, cette africanité, qui est déjà présente en Afrique et qui commence à déborder sur l'Afrique, qui commence à déborder sur l'Amérique du Nord, donc il va y avoir des échanges entre ces deux courants, et c'est de là que va naître donc, l'afrofuturisme. Parce que d'un côté, on est afro-américain, mais comme les autres peuples des États-Unis, on veut avoir une identité à mettre en exergue, et en plus les autres peuples, en particulier les blancs. Alors là, en fait, on est dans les années 60-70, on est en plein dans le Space Age, et donc c'est vraiment le top du top. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et donc du coup, on va s'approprier aussi ce Space Age, c'est-à-dire qu'on ne va pas seulement être dans la mythologie et tout ça, on veut aller aussi. Les Noirs américains veulent aller aussi dans l'espace. Ils veulent aller sur la Lune et ils veulent aller même plus loin. Ils veulent dépasser les Blancs dans ce domaine. Et même s'ils ne peuvent pas le faire matériellement, et ben au moins ils le feront idéologiquement. Et donc petit à petit, l'afrofuturisme va être reconnu comme un facteur d'émancipation, un moyen pour la culture noire de s'affranchir d'une autorité biaisée et pour faire sa propre éloge. Donc pour ce faire, l'afrofuturisme va s'appuyer profondément sur ses origines africaines comme garantie de son altérité par rapport au système. En fait, c'est par réaction vraiment au système des États-Unis. Donc l'afrofuturisme, c'est donc d'abord la réconciliation du noir américain avec son identité et ses origines. Voilà. J'avais mis cette petite slide sur Alex Haley, qui est vraiment, moi, je trouve, qui illustre bien cette envie de retour vers les origines. Je sais pas si vous connaissez le livre qui a été fait en série. Voilà, j'ai trouvé ça extraordinaire. Donc, je vous conseille de le lire ou de le regarder. Voilà, est-ce que vous avez des questions par rapport à cette naissance tumultueuse de l'afrofuturisme aux États-Unis? Oui. La funk aussi, etc.
Voilà, avec Parlement, etc. Mmh. On est dans cette période où se construit une identité qui est en opposition, peut-être pas forcément au long terme, à ce qu'on va appeler après la culture hongroise, finalement.
Mmh. Ah, exactement. En fait, ils veulent dépasser cette culture hongroise sans vouloir, mais pacifiquement. Oui, ils font ça, mais nous, on a la même chose, et même en mieux, parce qu'on va plus loin. Et donc on va commencer par la musique, et donc apparemment l'icône, je ne connaissais pas, mais l'icône de l'afrofuturisme, c'est Sam Ra et his orchestra, et qui est né en 1950. Son groupe est né en 1957. C'est un jazzman et multi-instrumentiste, donc qui a composé The Futuristic Sounds of Sam Ra, Space is the Place, Friendly Galaxy, Visit Planet Earth, donc tout est vraiment, on va dans le cosmos quoi, il est très psychédélique. Et donc il se dit en plus natif de Saturne, et il clamait avoir été envoyé sur Terre par le créateur de l'univers en 1055, afin de permettre au peuple noir d'échapper aux désastres ambiants, donc la ségrégation, les guerres froides, les bombes atomiques. Et il est souvent affublé, comme on le voit sur les photos, de costumes pharaoniques accompagnés de ses orchestres qu'il qualifie de cosmiques et d'intergalactiques. Alors, je voulais vous montrer un petit... Je mettrai pas en entier. Il y a des parties qui sont assez psychédéliques, donc c'est des sons assez avant-gardistes. Donc cet artiste, il est pétri d'héliocentrisme. Donc pour lui, le soleil, c'est son dieu. De SF et de mysticisme, et il a cultivé dans les années 60-70 une musique très onirique, très spirituelle et avant-gardiste, comme je viens de dire. Par exemple, dans le film Space is the Place, pardon, qui est un film réalisé par John Coney, qui a été coécrit par Sam Ra, et qui est sorti en 1974. Donc lui et son orchestre sont perdus sur une planète, et où ils élisent qu'ils vont élire nouvelle planète des Afro-Américains. Voilà. Donc là, on voit que c'est très Afro-Américain centriste. Donc au début, ça va être ça. Après, on va voir que ça va être un peu moins, ça va être moins en opposition avec la culture wasp. Mais là, pour le moment, c'est vraiment nous, c'est les meilleurs. déjà on se détache des autres et voilà. Et donc il va inspirer d'autres groupes comme le Funkadelic Parliament, qui imaginait déjà un couple noir à la Maison Blanche à l'époque, mais donc à la place d'Obama, il y avait Mohamed Ali et Aretha Franklin. Et ensuite, en peinture, j'ai choisi Hélène Gallagher. Donc, il a exposé au Studio Museum d'Harlem, qui est connu pour être un haut lieu de l'afrofuturisme. Et donc, il n'y a pas qu'elle qui a exposé là-bas. Il y a aussi donc, une Kenyane qui s'appelle Wangechi Mutu. Et donc, elle va s'interroger vraiment sur la place du corps de la femme noire. Dans l'art et en Afrique. Et on va avoir aussi Kilwangani Kiyanda, qui est un photographe, et lui qui va essayer de déstructurer un peu l'image occidentale de l'Afrique. Donc on remarque là déjà, donc il n'y a plus que des Afro-Américains, il y a aussi des Africains, et on a commencé à dépasser les frontières des États-Unis. Alors j'ai une petite question pour vous, est-ce que vous savez qu'il y a eu en Afrique un programme spatial ? Et si oui, quel pays du coup ? Pardon ? Non. Ça aurait pu parce qu'il est. Ouais, effectivement. Mais non, c'est la Zambie. Et donc, c'était en 1964, quelques temps après son indépendance. Mais malheureusement, faute de soutien et d'argent, finalement, ça n'a pas abouti. Mais du coup, il y a une photographe espagnole qui s'appelle Cristina de Middle qui a voulu donc commémorer ce petit intermède dans l'histoire africaine. Et donc, elle a fait toute une série de photographies comme ça, qu'elle appelle les Afronautes, où elle a mis en scène donc des Africains qui arrivaient donc dans d'autres mondes et qui étaient donc déguisés toujours avec des tissus de chez nous. Donc, voilà. Ensuite, il y a Alexis Peskins qui lui est bien français. Et donc il est connu pour, donc c'est un plasticien, il est connu pour faire pour utiliser des clous comme matière pour faire son art. Et donc lui, ce qu'il a fait, il a produit deux séries picturales afrofuturistes, l'une qui s'appelle Amazonas Futura et l'autre qui s'appelle Apollo Black. Et dans Amazonas Futura, par exemple, il va mettre en scène des femmes noires en tenue de métal, qui garantissent l'intégrité et l'identité dite nègre, et ce sont des guerrières, des exploratrices qui ont peut-être été esclaves. Et donc, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a vraiment une récurrence aussi dans l'afrofuturisme du matriarcat et de la place de la femme. Donc on comprend aussi que l'afrofuturisme est assez féministe. Donc maintenant on va parler de. Est-ce que vous avez des questions ? Donc l'afrofuturisme en Afrique maintenant. Donc je l'ai dit tout à l'heure, donc l'Afrique c'est la terre des ancêtres. Et donc au départ en 1994, pourquoi Monsieur Derry, donc qui a conceptualisé cette définition, pourquoi au départ il en a parlé, c'est parce que il a eu une discussion avec d'autres auteurs de SF qui étaient afro-américains. Il leur a demandé, mais pourquoi il y a si peu d'auteurs africains ou afro-américains qui écrivent de la SF. Et donc, à partir de là, il a commencé à chercher, à faire des recherches. Non, pas du tout, excusez-moi. Ce que je voulais dire, c'était qu'au début, il y a eu un réveil en fait aux États-Unis, et que ce réveil s'est fait ensuite en Afrique. Il s'est fait plutôt dans les années 2000 avec par exemple Achille Mbembe, qui est un philosophe camerounais. Lui qui va militer en faveur d'un réalisme magique et de cosmologie non européenne dans le but d'interroger le passé des peuples dits de couleur et leurs conditions dans le présent. Et donc ce qu'il veut, c'est que l'Afrique se réapproprie une histoire qu'il considère qui a été trop longtemps racontée par les autres, en tout cas par les Européens. Et il veut savoir d'où les Africains, d'où ils viennent, pour qu'ils puissent mieux appréhender l'avenir. Et il y a un écrivain sénégalais aussi qui s'appelle Felwine Sarr, qui est l'auteur d'Afrotopia. Et lui, il dit qu'il est primordial de recouvrer l'estime de soi en retrouvant dans les références culturelles africaines ce qui fait grandir l'humanité. C'est-à-dire, on va regarder ce que fait l'Afrique pour faire profiter le monde, en fait. Donc là, on n'est plus du tout dans l'afro-futurisme où les afro-américains étaient vraiment centrés sur eux-mêmes et voulaient se séparer des WASP. Là, on est on est africain, mais ce qu'on veut, c'est faire profiter notre culture aux autres et faire grandir tout le monde tous ensemble pour aller, entre guillemets, vers l'avenir et vers les étoiles. Et donc pour ça, il dit qu'il faut puiser dans les codes ancestraux, remettre au goût du jour les traditions pour forger une image de l'Afrique de demain. C'est-à-dire, on prend le passé, le présent, et on le réinvente, on le repense pour accoucher d'un nouvel avenir plus radieux, pas forcément utopique ni dystopique, mais oui.
Alors justement, vous allez dire le mot utopique. Ouais. Ma question est, est-ce que l'afrofuturisme est intimement lié au concept d'utopie? Est-ce que utopie et futurisme vont de pair? Ou est-ce que l'afrofuturisme interroge d'autres dimensions autres que l'utopie?
Alors,
par exemple, ouais. Là, quand je pense aux États-Unis d'Afrique, de la Harmony Wave, des jeunes, je me dis, oui, il a réfléchi, il a imaginé à Londres une Afrique, et je dis, l'Afrique. En tant qu'entité géographique, parce qu'il a imaginé l'Afrique du Nord au Sud dans une transformation extraordinaire. Et donc là, c'est une utopie. Est-ce que vous considérez cette utopie comme faisant partie au relent de l'afrofuturisme ou pas?
Alors, oui et non. Parce qu'au début, l'afrofuturisme, c'est l'utopie. Parce que comme je dis, ils veulent se séparer des Blancs, ils veulent montrer qu'ils sont meilleurs, donc ils vont pas dégrader. En plus, ils veulent rechercher une identité pour se glorifier, donc afrofuturisme égale utopie. Et au fur et à mesure donc, que ça va sortir des frontières, que ça va arriver en Afrique, on va commencer à s'interroger sur les problèmes de l'Afrique, c'est-à-dire sur la famine, sur les problèmes des gouvernements qui font un peu n'importe quoi. Et donc, il va y avoir, à côté de l'utopie, on va explorer aussi la dystopie. Donc on va avoir les deux versants. Voilà, les deux versants. Mais je pense qu'à 90%, l'afrofuturisme, elle est vraiment utopique.
Et je viens de penser à quelque chose, c'est que dans le roman de René Marjorel, Ravage, le tout début de son roman commence justement par cette vision d'Afrique
complètement. Ça rentre parfaitement. Par exemple, je pense à. J'ai oublié le nom de l'auteur et du livre, mais c'est un auteur, je crois, d'Éthiopie, donc il parle que. Il dit que. Donc c'est vraiment l'anticipation, où l'Afrique est devenue une nation très forte et puissante. Pardon ?
Tu penses à Jordan ?
Peut-être, ou du coup, l'Europe, par exemple, à contrario, est devenue très pauvre. Et du coup, on a cette vague d'immigration, mais du coup, qui est inversée. C'est-à-dire que c'est les Européens, du coup, qui vont vers l'Afrique. Et du coup, il y a les mêmes réactions qui se font que maintenant.
J'en ai vu un très mauvais roman, celle-là.
Pardon, excusez-moi.
J'en ai vu un très mauvais qui s'intitule, d'ailleurs, les États-Unis d'Afrique.
Ouais. Et ça ressemble à ça
tellement. Où il est trop caractéristique, trop inversé.
D'accord.
Il ne tenait pas tout parce qu'il n'y avait que d'inversion là où justement cette inversion n'est
pas
possible.
Il
n'y
avait pas de
nuance.
Bah, du coup, pour.
Et sinon, il y a. Je ne me rappelle plus le titre d'Ayordal. Demain, une oasis.
Oui.
Il y a demain, une oasis. Jordan,
petite
merveille sur ce thème. Et justement, qui ne prétend pas inverser tellement.
Oui. Je pense effectivement, pour que ça soit assez réaliste et une vraie, un bon roman d'anticipation, il faut qu'il y ait de la nuance. Si c'est de la pure inversion calquée sur ce qui se passe maintenant et. On renverse,
voilà.
Effectivement,
et
c'est...
Non, ça tient pas.
Oui, je suis d'accord.
Il y a une autre dimension à ça, c'est en même temps. Ah, après, au départ, mais par rapport à la question, il y a des choses très intéressantes qu'on peut lire derrière la question. Et là, il y a des romans qu'on peut mettre en corrélation, mais... j'en parlerai samedi, mais la question est intéressante dans un certain sens. Et on peut vraiment étudier ça, analyser ça dans un...
Avec nuance, je pense que c'est si c'est bien fait.
Les modèles, c'est déjà intéressant.
Oui, si c'est déconstruit, ce n'est pas simplement reprendre le modèle en échangeant des rôles.
Mais c'est peut-être l'objectif.
C'est
justement l'objectif.
Mais je pense en tout cas que ça a le mérite de faire réfléchir, du coup, si on était à leur place, et qu'est-ce qui se passerait.
Voilà, tenir compte justement de ce qu'il y a des réactions qui sont différentes.
Oui, en fonction de la culture, c'est vrai que les réactions ne peuvent pas être totalement identiques. Et donc en fonction de donc il y en a plein d'autres qui prônent ce regard vers la science-fiction. Bien que sur le continent, au départ, il n'y a pas beaucoup d'auteurs qui se revendiquent de la SF, et les Africains eux-mêmes vont lire très peu de SF parce qu'ils ont d'autres préoccupations et ils vont pas trouver ça pertinent pour leur vie et leur quotidien.
Il y a un problème africain qui n'est pas spécifiquement en même en Amérique du Sud.
Et en Asie.
Le fait que quand par hasard il y a un auteur dans un pays particulier, cet auteur n'est pas reçu dans les autres pays.
Ah bon?
C'est l'impression que j'ai eue d'après une conférence que j'ai entendue par un Ghanéen d'ailleurs,
ouais.
Qui expliquait comment les rares efforts de science-fiction dans un pays d'Afrique ne passaient pas vers les frontières des pays voisins.
D'accord.
Et j'ai eu la même remarque pour l'Amérique du Sud.
Est-ce que c'est pas, en tout cas pour l'Afrique du Sud, je ne sais pas, mais est-ce que c'est pas un problème entre les aires francophones et anglophones, où du coup il n'y a pas beaucoup d'échanges? C'est peut-être ce problème-là.
Parce que ça se passe à l'intérieur de la francophone, ça se passe à l'intérieur de l'anglophone.
D'accord, ok. Je suis un peu étonné, mais...
Si bien du Ghana n'arrive pas en Amérique du Sud, si bien d'Afrique du Sud n'arrive pas au Ghana.
D'accord. Ok, je suis étonné, mais... Okay.
C'est ce que j'entends, hein,
Oui, oui.
Je ne c'est pas une opinion que j'aurai, puisque je n'ai pas les données, c'est ce que j'ai entendu dire. Dans une autre conférence, je serai accepté.
C'est bon à savoir. Oui. Et donc, sur le continent, du coup, même si on dit qu'il n'y a pas beaucoup de SF, certains ont quand même relevé le défi. Donc, par exemple, on a des BD africaines, d'Afrique du Sud, du Nigeria et même du Togo. Donc là, on est ère anglophone africaine, donc avec des héros qui sont 100% africains, qui sont inspirés de la mythologie locale, comme Eru, Kwezi et Abo. Ce sont des images là, qu'on voit. Et où là, c'est une série sud-africaine qui s'appelle Django. Donc ça peut faire penser un peu à du Marvel. C'est un super héros qui s'appelle j'ai oublié son nom, mais en gros il touche un cristal magique et du coup il acquiert des pouvoirs et du coup c'est un justicier dans la ville. Moi ça m'a fait beaucoup penser à DC Comics et Marvel. Donc je voulais vous montrer une bande-annonce de la série.
My name is Ilaki. I was just a normal guy living in the city of Rome, the creator of humankind. My girlfriend and I were starting our lives together. And I was staying with my best friend. He talks too much, but there's nobody I trust. I spent my days trying to keep young people off the street, away from bad things. Everything was simple back then. Now that life is over. First my father was taken from me. Then they kidnapped Maya. They've taken her because they want what my father took from them. Something he did for me on my mother's grave. It's the final key to an ancient prophecy. One that has given me abilities no human should have. I know that they will stop at nothing to get it back. And even the threat of the last movements. I call it that, and I'm likely to take away another person I know. They don't know it yet.
Je sais pas si vous avez donné envie, je sais que c'est très kitsch, mais il y a des parties qui m'ont fait un peu rire. Donc il y a les jeux vidéo aussi, donc il y a l'héritage des Coriolan, qui a été fait par un studio camerounais qui s'appelle Kiro Games. Donc ça parle d'un prince qui s'appelle Enzo Coriolan. Prince de Zama qui a des pouvoirs magiques et qui va chercher aux côtés de son épouse Erinevu à retrouver son trône usurpé par son beau-frère. Donc j'ai jamais joué, mais je trouve que le graphisme est très bien fait et on retrouve tous les codes de l'afrofuturisme, même si ce n'est pas de la SF, ce serait plus de l'afro-fantasy, mais comme on dit, l'afrofuturisme c'est pas uniquement de la science-fiction, ça va être SFFF, voilà, en gros ça va être ça. Et enfin, j'ai trouvé intéressant aussi de mettre cette personne, qui est une créatrice, qui s'appelle Célie Kaby Kane, qui est sénégalaise et qui a fait un défilé de haute couture, un défilé performance et de afrofuturiste. Et donc, si on voit, donc elle a fait des espèces de silhouettes hybrides avec du plastique et des tissus traditionnels. Et donc le thème de son défilé, c'était que Dakar était envahi par des êtres venus d'ailleurs, en 2200. Et donc elle voulait explorer du coup les répercussions sur cette cohabitation avec la population. Et donc la répercussion sur l'architecture, les vêtements des hommes et des femmes, la musique. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Oui. Je pense que ce soit un problème de. Enfin,
c'est très compliqué de trouver des producteurs, ouais. De faire des tournages en cartes. Par exemple, j'ai un ami qui est du Gabon.
Oui.
Et en fait, lui, il a réussi à percer dans le rap au Gabon. Mmh. Mais à partir du moment où il a voulu se mettre à la réalisation,
ouais.
Il a quitté le Gabon pour aller faire ses études en France.
Ouais.
Et là, je ne suis pas un spécialiste de ces projets. Mmh.
Je pense qu'il y a plein de problèmes, y compris le soutien des gouvernements. Par exemple, en France, je pense que le cinéma est très soutenu quand même par plein d'argent public. Et du coup, ce n'est pas le cas du tout dans les pays africains. On pense en tout cas beaucoup moins. Et donc, j'ai le même exemple avec un Ivoirien qui est parti au Canada du coup, pour faire un film avec de la mythologie africaine, un film SF fantastique, avec les Orixa, justement. Et. Donc oui et non, c'est un problème de fond, mais il y en a quand même certains qui arrivent. Et effectivement, en Afrique du Sud, comme on a vu, ils arrivent à faire des films. Ou au Nigeria aussi, il y a plein d'exemples où ils font des films avec des films mythologiques ou des trucs de SF, vraiment qui sont kitsch quand même, mais on a vraiment l'impression que c'est fait par des Noirs américains. Et ou des jeux vidéo, il n'y a pas que les Camerounais, il y a les Nigérians, et il y a même d'autres pays de l'espace francophone qui s'y mettent aussi. Donc je pense que ça commence à venir.
J'avais
vu un article
sur le fait que de plus en plus, il y a des studios
de
jeux vidéo en Afrique qui arrivent à vivre, et même qui arrivent
qui font un carton en plus.
Des gros éditeurs. Par contre, même s'ils ne sont pas d'éditeurs,
de toute façon, c'est fini. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci.